Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons une programmation en béton avec Sam & Max, Castlevania Symphony of the Night, Batman Return, Fire Woman Matoigumi, deuxième partie, un dossier sur le système d'arcade Taito F3, et nous finirons avec Elevator Action Returns, bienvenue sur Rétrovision. Quand une femme girafe et un grand pied s'évadent d'une fête foraine et sont traqués par un chanteur country nain, qui mieux qu'un chien et un lapin psychotique peuvent régler la situation? Vous trouvez que ce pitch n'a aucun sens? Normal, car nous sommes dans un point and click de chez LucasArts.
Notre principale attraction était un véritable...
Sam & Max, les policiers freelance, création de Dave Purcell et façonnée par son frère Steve, traceront la route à travers les États-Unis au volant de leur DeSoto pour retrouver Trixie, la femme girafe de Scranton dans l'Ohio, et Bruno, le grand pied, avant que le chanteur de country Conroy Bumpus ne leur mette la main dessus pour les utiliser dans son spectacle.
Sam, cet endroit me fait...
Pour cela, notre duo se baladera dans des lieux les plus insolites, caricatures de véritables lieux pseudo-touristiques américains, pour dénicher des indices et interroger des personnages haut en couleur.
Mais non.
Vous pourriez la fermer un peu, putain. J'essaye de me concentrer.
Utilisant le moteur Scum et proposant une interface à base d'icônes épurées comparée à celle de Day of the Tentacle, Sam & Max est un jeu très simple d'accès. Marcher, prendre, utiliser, regarder et parler, telles sont les interactions que vous pourrez réaliser avec les éléments du décor ou les personnages rencontrés. Vous pourrez récupérer tout un tas d'objets que Sam emmagasinera dans un carton pour les réutiliser ultérieurement. Vous aurez même la possibilité d'assembler plusieurs de ces objets pour réaliser certaines actions spécifiques. Brillamment réalisé avec des graphismes typés cartoon, normal pour un jeu tiré d'une bande dessinée, le jeu pêche toutefois par une bande-son trop discrète et assez anecdotique. Le titre vaut surtout son pesant de cacahuètes pour son humour très décalé, voire tordu.
Max, où dois-je mettre ceci pour qu'il ne puisse pas faire de mal à nos amis ou à nos proches?
Par la fenêtre, Sam! Il n'y a que des étrangers là-dehors!
J'espère qu'il n'y avait personne dans ce bus.
Personne que je connaisse, en tout cas!
Ainsi que de nombreuses références à l'univers de George Lucas ou Steven Spielberg. Il faut également souligner que le jeu est intégralement doublé grâce à l'utilisation du support CD-ROM et que le doublage français est d'excellente qualité, chose encore trop rare de nos jours.
Je le trouve mignon, moi, Sam. Je peux en faire une raquette de tennis ?
Plus tard.
Sam & Max est donc un pointé-cliqué d'excellente facture qu'il est temps de découvrir si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous y essayer. Quant à notre duo, et bien que leur univers peut donner lieu à de nombreuses histoires plus délirantes les unes que les autres, il faudra attendre 13 longues années pour les revoir de nouveau sur PC et console, sous la houlette du studio Telltale Games. Si son univers désormais en 3D et son humour sont moins accrocheurs, les fans français peuvent exulter à l'idée que Jean-Claude Donda, qui prêta sa voix à nos deux personnages principaux, reprend du service pour notre plus grand plaisir.
Je parie que vous ne pouvez pas cracher des flammes par le derrière.
Foutez les camps !
Amateur !
1792, dans les profondes forêts de la Transylvanie, le sort de l'humanité se joue une nouvelle fois. Richter, illustre ancêtre de la famille Belmont, va envoyer le seigneur Dracula dans son tombeau pour un siècle. Toutefois, la paix ne régnera pas longtemps, car 4 années seulement après la défaite de Vlad Tepes, la silhouette de son lugubre château a refait surface et Richter, le sauveur des Carpates, a disparu. Fort heureusement, l'humanité peut se reposer sur les épaules d'Adrian Fahrenheit Tepes, fils du seigneur des ténèbres qui fonce tête baissée vers la demeure de son père afin d'en découdre une bonne fois pour toutes avec ce dernier. Premier opus de la saga Castlevania sur 32 bits, Symphony of the Night montre une véritable rupture avec les épisodes de la première décennie. Le jeu laisse de côté l'aspect purement plateforme action pour s'orienter vers l'exploration aventure, matinée d'éléments tirés de l'univers RPG. Certes, tout ceci n'est pas original et avait déjà été exploité par la franchise dès le début avec l'épisode Vampire Killer sur MSX et Simon's Quest sur NES, mais sont ici utilisés de manière plus profonde en copiant les mécanismes instaurés par la série Metroid, le château de Dracula étant divisé en diverses sections qui ne seront accessibles la plupart du temps qu'en acquérant de nouveaux pouvoirs ou artefacts. De l'univers RPG, le titre en reprend un inventaire d'objets et d'armes trouvés dans les divers recoins du château ou laissés par les ennemis, voire achetés auprès du bibliothécaire. Ces équipements influenceront le statut d'Alucard selon plusieurs critères: santé, magie, résistance, chance, intelligence, etc. Un système de points d'expérience est également présent. Notre héros gagnera ainsi des niveaux de compétences de manière régulière. Avec un château déjà vaste à explorer grâce à ses nombreux passages secrets, l'aventure sera deux fois plus longue avec un second château, copie inverse du premier, qui ouvrira ses portes si l'histoire se déroule de la bonne manière. Ce Castlevania propose donc une aventure longue et haletante, servie par une réalisation de tout premier ordre, des graphismes fins aux splendides effets de lumière et à la bande-son enivrante. Symphony of the Night est-il un excellent jeu? Oui. Est-il un épisode marquant de la série? Oui. Est-il le meilleur épisode de la saga? Non, car il faut bien rester objectif. Si le jeu a été placé sur un piédestal par beaucoup de gens qui ont oublié le principe de pensée individuelle, il est temps de remiser ces principes éculés à la cave et de faire preuve d'objectivité. Symphony of the Night n'est pas le meilleur jeu du monde, et malgré des qualités pourtant indéniables, celui-ci possède également des défauts. D'une part, son personnage principal, que beaucoup désignent comme charismatique, mais avoir une cape et des cheveux longs ne suffisent pas à avoir du charisme. Il faut également avoir une personnalité, ce que Alucard n'a pas. Il parle peu, ne montre aucun sentiment, ou si peu. Bref, un personnage transparent auquel il est bien difficile de s'attacher. Ensuite, il y a l'ambiance musicale. Certes, les thèmes sont magnifiques, mais il faut admettre qu'au bout de plusieurs heures de jeu et d'aller-retour dans le château, la lassitude s'installe et certaines musiques finissent par taper sur le système de bon nombre de joueurs. Il y a également les graphismes. Les décors, très inégaux, passent du magnifique au très laid. Et certains sprites ont été repris de la version PC Engine sans avoir été retravaillés. Sans oublier le système d'expérience et d'objets, enlevant tout challenge au jeu. Il suffit par exemple d'être simplement équipé de l'épée Chrysagrim pour vaincre n'importe quel ennemi, Dracula inclus, en moins de 2 secondes. Bref, une difficulté très mal dosée. Pour conclure, Symphony of the Night reste un excellent jeu, mais un jeu qu'il est bon d'analyser en profondeur et dans le temps pour l'apprécier à sa juste valeur, sans en faire trop. Gotham n'est plus la ville joyeuse et illuminée qu'elle était. Non, et si tout Gotham a été plongé dans le chaos, ce n'est pas un simple état de fait. Le coupable n'est autre que le Pingouin et ses sbires, mais c'est sans compter sur le chevalier noir qui protège la ville. Je veux bien sûr parler de Batman. Si le jeu vous rappelle quelque peu le film, ce n'est pas qu'une coïncidence. Le jeu est en fait tiré de l'œuvre de Tim Burton. Et malgré toutes les adaptations qui sont de tous horizons, la version Super NES a été développée par Konami, les versions Sega par Sega of Americas et la version Lynx par Atari, sortie en 1992 bien évidemment, ce qui explique les différences de qualité. Bref, revenons à notre version Lynx. Celle-ci est un beat'em up vraiment classique dans son gameplay, et pour un jeu Lynx, on peut dire que ce titre s'en sort tout à fait honnêtement. Les graphismes sont propres, le son est correct, sans être non plus parfait, mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est une réussite. Le sprite est de bonne taille, l'animation est honnête. Batman pourra avoir différentes armes à son actif et bien évidemment le Batarang, très apprécié des fans. Le jeu se compose en 4 modes, reprenant bien évidemment l'intrigue et le déroulement du film. D'une difficulté redoutable, et ceux qui l'ont eu à l'époque s'en souviennent encore.
Pour conclure, on peut dire que c'est un très bon jeu sur la Lynx et qu'il n'a pas à rougir face aux versions des consoles Sega, en particulier face à la version Game Gear. Il ne vous reste plus qu'à partir à la chasse aux pingouins à travers Gotham City. Deuxième partie de notre chronique sur le jeu Fire Woman Mataigumi sur PC FX. Lors de la précédente émission, nous vous avons présenté l'histoire ainsi que la partie drague du jeu. Nous allons voir maintenant la partie club et combat. Le lycée Shirozagi propose un vaste choix de clubs. Faire partie d'un club vous permettra de faire évoluer votre personnage et d'augmenter ses compétences selon divers critères. Les clubs sportifs amélioreront vos capacités physiques, là où les clubs scientifiques, artistiques et littéraires augmenteront vos capacités mentales. Il existe également des clubs d'arts martiaux qui, non seulement vous renforceront physiquement, mais vous permettront d'acquérir des techniques de combat, chose fort utile quand vous devrez en venir aux mains. Chaque séance dans un club augmentera certaines de vos capacités et en diminuera d'autres. À vous donc de gérer ainsi l'évolution de votre personnage. Je ne saurais quand même vous conseiller d'être assidu au club d'arts martiaux, juste histoire d'être préparé au futur combat qui vous attend. Vous ne pouvez participer aux activités que d'un seul club par jour et récupérerez vos points de santé la fin de semaine. Il est donc important de bien choisir ses activités selon la manière dont vous souhaitez faire évoluer votre personnage. Gérez bien son énergie pour que celui-ci ne tombe pas de fatigue et rate un ou plusieurs jours de cours. À chaque début de mois, une compétition est organisée au sein du Mataigumi pour savoir qui est le meilleur combattant. C'est une bonne occasion pour vous pour montrer l'évolution de votre avatar. Chaque personnage que vous vaincrez vous apprendra cette technique de combat ultime que vous pourrez réaliser par la suite. Les phases de combat se déroulent au tour par tour, usant d'un système similaire à l'Active Time Battle des jeux Squaresoft. En attendant que votre personnage puisse agir, vous pourrez définir une séquence de 4 actions. À chaque bouton de la manette est associée une action, que vous pourrez configurer à votre guise parmi toutes les techniques que vous aurez acquises en participant au club. En cas de défaite, vous vous retrouverez à l'infirmerie et aurez perdu une journée d'activité. Fire Woman Mataigumi est donc un jeu assez singulier. Trop simpliste pour être un RPG, trop évolué pour être un jeu de drague, celui-ci offre une expérience de jeu assez unique. Si tous les menus sont en japonais, leur organisation est si simple qu'un non-initié y trouvera quand même rapidement ses marques. Mais la non-connaissance de la langue gâche malheureusement la compréhension de l'histoire. Cela n'est tout de même pas pénalisant pour profiter du jeu. L'auteur de cette chronique l'a terminé plusieurs fois sans même connaître un mot de japonais. Avec sa réalisation tout à fait satisfaisante, ses graphismes colorés, ses sprites énormes et expressifs, sa bande-son sympathique mais pas inoubliable, Fire Woman est un titre à essayer au moins une fois dans sa vie. D'autant qu'il réussit à fédérer des joueurs généralement peu adeptes de ce type de jeu. Si vous pensez que ne pas posséder une PCFX est un frein à la découverte de ce titre, sachez que celui-ci a été adapté un an plus tard sur PlayStation dans une version sensiblement identique à l'original. Des années 80 jusqu'au début des années 2000, l'arcade fut une véritable vitrine technologique pour les éditeurs. Alors qu'au début des années 90, SNK attirait l'attention avec son système MVS et que Capcom préparait la succession de son système CPS1, le fameux CPS2, Taito, autre acteur de l'arcade, dévoila en 1992 le Taito F3, aussi connu sous le nom de CyberCore en Amérique du Nord. Successeur des systèmes F1 et F2, le F3 est une architecture proche de ses concurrents avec une résolution identique et un processeur à peine plus véloce que celui du MVS. Si les premiers jeux furent fabriqués dans un format totalement autonome, comprenant le hardware et le software sur une même PCB, ce dernier sera bien vite remplacé par une version utilisant un couple carte-mère plus cartouche interchangeable, plus pratique et économique, tant dans les coûts de fabrication qu'au prix de vente pour les exploitants de salles d'arcade. D'un gabarit supérieur au MVS, mais moins encombrant que celui du CPS2, les cartouches du système F3 se présentent sous une forme carrée de couleur rouge, d'une taille à peine inférieure à celle de la carte mère. Pour son exploitation internationale, le système fut verrouillé en 3 zones distinctes, Japon, Amérique et Europe. Il est normalement impossible d'utiliser une cartouche avec une carte mère d'une zone différente. Les ergots placés sur les contacteurs de la carte mère, différents selon la zone, assurent cette protection. Néanmoins, il suffit de faire sauter ces ergots pour rendre le système multizone, aucune protection régionale n'étant présente dans les jeux. Cela représente quand même une opération qui n'est pas sans risque. Ne le faites donc pas si vous êtes du genre à avoir deux mains gauches. La carte mère du F3 est équipée de contacteurs pour pouvoir brancher des contrôleurs supplémentaires, pour les jeux se jouant jusqu'à 4 joueurs, mais également pour brancher un spinner, une espèce de molette essentiellement utilisée dans les jeux Arkanoid Returns et Puchikara. Durant son exploitation, qui s'étendra de 1992 jusqu'en 1998, le catalogue du Taito F3 comptera 37 jeux, dont 3 resteront à l'état de prototype. Cette ludothèque est essentiellement composée de puzzle games, spécialité de Taito, avec des titres comme Puzzle Bobble, Cleopatra's Fortune ou Pop and Pop, mais aussi des shoot'em up avec Darius Gaiden, Grid Seeker ou Gekirindan, et des jeux de sport, de quiz et d'action. La plupart de ces titres se verra portés sur console, majoritairement sur Saturn, mais aussi sur PlayStation et Dreamcast. Taito est un développeur très productif. Le F3 sera bien vite remplacé par d'autres systèmes, et ce, dès le milieu des années 90 avec les cartes FX1 ou GNET, des architectures basées sur le populaire ZN1 de Sony. Elevator Action Returns, aussi connu sous le nom de Elevator Action 2 en Amérique du Nord, est un jeu d'action à défilement latéral développé par Taito en 1994. Il ne s'agit ni plus ni moins de la suite du jeu d'arcade Elevator Action, sorti en 1983, et il fait partie des jeux conçus sur le système Taito F3 dont nous venons tout juste de vous parler. Paru 11 ans après son prédécesseur, cette suite a conservé le gameplay monte-descend basé sur des ascenseurs, mais remplace l'aspect espionnage avec un nouveau scénario impliquant une équipe paramilitaire combattant contre un groupe de terroristes. De nombreux ajouts ont été également apportés à la mécanique de jeu grâce à l'avancement de la technologie, comme un scrolling multidirectionnel, l'original ne pouvait faire défiler que verticalement, de nouveaux mouvements, des armes supplémentaires, 3 personnages et un mode coopératif de joueurs. Le joueur contrôle un membre du groupe d'intervention spéciale qui doit déjouer les plans d'un groupe terroriste qui a planté de nombreuses bombes nucléaires dans diverses installations. Il va falloir obtenir des données secrètes disséminées dans chaque établissement afin de désarmer les bombes. Il y a 6 niveaux au total, constitués d'un gratte-ciel, un aéroport, une salle d'arcade souterraine, des égouts, d'une usine d'huile et d'une base militaire. Voilà, c'est la fin de cet épisode bien chargé de Rétrovision, en espérant que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas que vous pouvez toujours envoyer vos questions sur l'émission en prévision d'un podcast qui aura lieu prochainement, soit par message privé, soit par Facebook. De toute façon, vous avez toutes ces informations dans les descriptions YouTube et Dailymotion. Alors on vous dit à très bientôt sur Rétrovision.